En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver sur IDFM pour un nouveau numéro de Latitude Positive. C'est Christophe Médici avec vous sur la radio du bien-être. Et aujourd'hui, on est complètement dans l'actualité parce que j'ai comme invité l'auteur de livres à succès et en même temps professeur de philosophie à l'éducation nationale, Emmanuel Jafflin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Christophe.
Nous sommes ravis de vous accueillir pour votre livre qui est paru chez Plon il y a quelques temps, Apologie de la punition, Emmanuel. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est en pleine période d'examen dans le secondaire. Et c'est vrai qu'en ce moment, le niveau scolaire défraie la chronique. On a toutes, et chers amis auditeurs, vous le savez, toutes et tous entendu parler de cet enseignant contractuel qui, devant le lycée Maria de Rheims, a brûlé des copies. D'abord, première question, Emmanuel, quel a été votre sentiment de son acte et comment avez-vous réagi ?
J'étais surpris, je l'approuvais pas, en même temps je comprenais son mécontentement. C'est la raison pour laquelle j'ai publié sur un site internet une des copies que je corrigeais, mais j'ai juste publié un bout pour montrer qu'il y avait une solidarité, non pas dans le comportement, je voulais pas brûler, mais pour montrer qu'il y a une défaillance scolaire qui est catastrophique.
Donc cette défaillance, vous avez publié évidemment en un peu solidarité avec cet enseignant, oui. Sur le fond, pas forcément sur le comportement, on est d'accord. Le comportement était un peu transgressif, peut-être trop, mais j'ai cette copie effectivement que vous avez montrée. Bon, c'est aussi pour dénoncer la réalité du niveau de certains, on va pas généraliser, mais de certains élèves et dans certains établissements, pas dans tous, n'est-ce pas,
Emmanuel Jafflin ? Mais le vrai problème, c'est celui de la correction.
C'est-à-dire, expliquez.
C'est-à-dire que pour qu'un élève arrive en terminale avec un tel niveau d'orthographe, c'est-à-dire une absence totale, hein, il écrit satisfaire. le seul moyen qui nous permet de satisfaire, S'A2TISPHE, accent grave RE. Donc c'est une sphère de faute que je n'ai jamais vue.
C'est incroyable. Et ça, c'est une copie de terminale.
Eh oui.
De terminale, quelle section ?
Je sais plus, il y a plus
ouais,
de section.
Ouais, ouais, d'accord, il y a plus de section.
C'est section classique anciennement.
Moi qui ne suis pas à l'éducation nationale, je suis resté avec les B, les E, les S,
non,
les C,
fini.
Les D, c'est fini.
Tout
ça.
Tout est mélangé.
Tout est mélangé. D'accord, je connais plus ça. Bon, alors Emmanuel, venons-en au fait. Est-ce qu'on peut dire que le niveau, et là je parle pas que des élèves, mais le fonctionnement de l'institution, n'est-ce pas, éducation nationale, depuis quelques décennies, sur une pente descendante, mais assez descendante, et c'est un doux euphémisme.
Oui, c'est un euphémisme, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il est devenu interdit de corriger. Et si j'ai écrit cette apologie de la punition, c'est lié à la correction. Il faut commencer par l'école, on peut plus corriger une faute, on peut plus corriger un élève. Et donc, corriger, ça veut dire remettre droit, rectum. Et si on veut plus rien mettre de droit, tout va de travers. Et la copie n'est qu'un symbole de ce travers qui affecte notre société.
C'est un symptôme, en fait. Ça montre ce que c'est. Alors, c'est vrai que dans votre livre, Apologie de la punition, on vous connaissait plutôt sur le terrain de la gentillesse. Vous commettez un livre passionnant, d'ailleurs, chers amis auditeurs, vraiment, allez regarder le livre d'Emmanuel Jafflin. Sur la punition, j'ai envie de dire, comment avez-vous fait ce saut de la gentillesse à la punition et quels ont été les déclics, Emmanuel Jafflin ?
Alors c'est une bonne question. La première chose, c'est que suite à ce qu'avait fait la ministre de la prison, Michèle Alliot-Marie, elle avait décidé suite à des suicides dans les prisons qu'il fallait, pour les soulager de ça, leur mettre des pyjamas en papier. Et donc j'avais trouvé ça tellement ridicule que j'avais écrit un article dans Le Monde et du coup l'institution qui dirigeait les prisons, l'association pénitentiaire, m'avait invité pour me punir en partie, pour me montrer que j'avais tort, et m'avait envoyé en prison. Non pas pour me punir cette fois, mais pour me montrer que j'avais tort de ce que je disais sur les prisons. Et du coup, j'ai visité deux prisons, les deux dans le nord de la France, au nord de Lille, à Lesley-Lille, une prison où j'avais eu un élève qui avait été enfermé, c'est moi qui avais demandé à la visiter, et puis une à Sequedin. Et à l'issue de cette visite, le directeur de la deuxième prison m'avait proposé de venir y faire des interventions. Donc j'y ai animé un atelier philo pendant 2 ans. Et après j'ai écrit ce livre pour montrer qu'il fallait vraiment réagir à autre chose qu'à la prison. Donc réfléchir à la punition. Et ce mot a été évacué de notre vocabulaire. C'est interdit de dire punir. On préfère le mot pénal. Le droit a pris l'ascendant sur la morale.
D'ailleurs, dès le début du livre, Emmanuel, vous parlez de ça, d'histoire de vous parlez de l'impensé pénal.
Eh ben oui, on ne veut plus penser la punition. Je vous dis, on a abandonné, tout doit être géré par le droit. Donc il est interdit moralement de réprimer un enfant, de le punir en tant que parent, en tant que prof. J'y consacre deux chapitres du livre pour montrer que tant les parents que les enseignants n'ont pas le droit de punir, de corriger leur enfant.
Alors c'est intéressant parce que c'est un ouvrage que tout éducateur qui, dans le domaine de l'éducation au sens large du terme, hein, les gens à l'éducation, les éducateurs ou tous les gens qui s'occupent d'enfants, et qui, dans le domaine de la famille, n'est-ce pas, devrait penser, parce que depuis plusieurs décennies, ça a beaucoup bougé, la question. Il y a maintenant, je crois, vous allez me dire si, parce que vous avez travaillé sur la question, mais je crois que certaines punitions sont interdites par la loi. Fesser un enfant est interdit par la loi.
Bah oui,
taper un enfant est interdit par la loi. C'est interdit.
Oui.
C'est devenu interdit.
Et on peut plus punir à l'école maternelle.
Et on ne peut plus punir à l'école maternelle.
On peut juste retenir en dehors de la récréation l'enfant pendant quelques minutes, c'est tout. C'est
la seule punition. Sinon, on est passible de la loi, en fait.
Bah oui.
Donc voilà, donc ça pose une vraie question. Après, la vraie question, c'est où place-t-on le curseur? Bon, alors, on va revenir, vous en parler, avant de parler du curseur sur le terrain, Emmanuel, parce que ça va être intéressant. Revenons à surveiller et punir de Foucault. Qu'est-ce qu'il disait, Foucault?
Oui, bah, c'était la suite. J'avais appelé apologie de la punition pour prendre la suite de surveiller et punir. Mais ce que Foucault avait réfléchi sur la prison. Mais il était resté dans la critique de la prison, mais il proposait pas autre chose. Et il était sur un plan, qui était strictement philosophique, mais pas du tout moral. Moi, je voulais qu'on réintroduise, la punition par un acte moral. Montrer que c'était pour le bien qu'on punissait. Et aujourd'hui, on est persuadé que le bien dépend du droit et que personne n'a son mot à dire sur le bien et sur le mal.
Alors, ça devient... Là, à ce moment-là, je pense que beaucoup d'auditeurs sont très intéressés par notre sujet, mais se demandent où place-t-on le curseur, parce que c'est pour le bien. Revenons à cette grande thérapeute pour enfants du XXe siècle qui s'appelait Alice Miller, n'est-ce pas, Emmanuel Chaplin, donc qui avait écrit un fameux livre qui s'appelait « C'est pour ton bien ». Il y a des punitions, on va dire, justes et des punitions injuste. Ça dépend de qui punit aussi. C'est pas uniquement de la personne punie. Il y a des gens qui sont des malades mentaux. Il y a des pervers narcissiques. Il y a des secoués. Il y a des parents toxiques ou des enseignants aussi. Et eux, ils vont pas punir d'une manière juste. Ils vont punir et ils vont faire mal.
Exact. Alors, ce que je distingue dans cette société, c'est que on confond la punition et la maltraitance. Par exemple, un adulte qui met une gifle à son enfant, c'est forcément de la maltraitance. Ça veut dire qu'on a évacué toute autorité aux parents. C'est-à-dire que les parents sont plus des parents, ils le sont génétiquement, mais de manière éducationnelle, morale, psychologique, ils ne sont plus des parents. Et la vraie autorité dans une famille, ce n'est plus le père ou la mère, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a tout le pouvoir.
Moi, je pense qu'on va passer une page musicale, chers amis auditeurs. Restez avec nous, c'est passionnant. On va revenir sur cette histoire de différence entre maltraitance et punition.
Sa chère école, sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la vous offrons ce qu'elle peut faire pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Sur sa main, seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous sont remis aux élèves. Tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se relève. Une dernière fois, les enfants vont chanter.
Adieu.
Et oui, l'immense et le grand Hugo Frey qui, de toute sa jouvence, du haut de ses près de 95 ans, a toujours cette patate et cette chanson, chers amis auditeurs, qui nous rappelle ce temps béni, je dis bien ce temps béni, où le charisme de fonction de l'enseignant était très fort, où les enseignants étaient des gens valorisés dans notre époque. C'est quand même ce qu'on appelait le plus beau métier du monde. Et qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? C'est sur toutes ces questions-là que nous nous penchons avec mon invité, qui est à la fois un auteur de best-seller passionnant, Emmanuel Jafflin, que vous connaissiez pour son éloge de la gentillesse et que maintenant vous pouvez découvrir aussi pour son apologie de la punition chez Plomb, et qui est aussi enseignant. Et depuis 40 ans, donc il connaît bien toutes ces questions liées à la démonétisation jour après jour du métier d'enseignant. Emmanuel, je suppose en 40 ans, vous avez vu la situation, soyons très honnêtes, on met les pieds dans le plat, se déliter.
Oui, j'ai d'autant mieux vu que j'ai arrêté ce métier plusieurs fois pour être diplomate, et qu'à chaque fois que je revenais, je voyais bien que c'était descendu, que le niveau avait baissé, que les exigences du prof étaient de plus en plus fortes, et que son respect était de plus en plus moindre.
Mais Emmanuel, c'est plurifactoriel, mais on a l'impression qu'on a, c'est un fantôme, quoi, qu'il n'y a rien qui peut arrêter ça. Qu'est-ce qui se passe? Les plurifacteurs, d'accord? Mais alors vous en voyez un, deux, trois, quatre, c'est lié à quoi? Pourquoi ça, c'est aussi terrible?
Ben, ça, je l'explique dans le livre « Apologie de la punition » chez Plomb, qui explique qu'on est passé d'une idéologie de la responsabilité, c'est-à-dire une période où on apprenait à répondre de nos actes et où on était éduqué pour ça, à une idéologie de la victimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que chaque individu, quoi qu'il fasse, il est une victime, il trouvera toujours un avocat pour montrer que s'il a commis la pire des choses, c'est pas de sa faute. Donc on déresponsabilise tout le monde.
On se retrouve dans le triangle de Cartman, persécuteur, sauveur, victime. Quoi. On vit dans le triangle de Cartman quasiment au quotidien, quoi.
C'est ça. Au quotidien de notre société, en tout cas.
Ouais. Et c'est évidemment ça. Avec l'idée peut-être aussi que, je sais pas, je suis formateur, donc je suis dans la formation continue, je connais pas la formation initiale. Mais est-ce que, alors c'est une vraie question dans le côté plurifactoriel, il y a un côté, avec beaucoup de guillemets, has-been, obsolète, de la façon dont le système scolaire français, fonctionne. Et on a l'impression qu'il a pas tellement bougé depuis la Troisième République. Et or, on est en 2023. Faudrait-il un plan Marshall de ce système?
Ah, je sais pas s'il faut un modèle américain pour réformer notre système.
Ouais,
puisque
Marshall, c'est une image, ouais.
Le système américain est une des causes avec son wokisme de dégradation de notre système social.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Parce qu'il veut absolument que toutes les minorités s'expriment et que celui qui n'est pas dans la minorité s'écrase. Donc, ça pose un vrai problème de cette dégradation sociale. Donc, je prends pas le plan Marshall ni le modèle américain comme norme de notre société. Je pense qu'on pourrait réformer notre système social si on revoyait les choses de manière un peu plus morale et de moins en moins juridique.
Notre système scolaire, on est d'accord. Notre
social
système...
en général. Dans lequel
social,
l'école
prend
partie.
En général, notre système social.
Ce que je vous disais sur
d'accord.
les parents, d'accord. Le fait que les parents sont des autorités. Des autorités pas seulement génétiques, mais morales, et qu'on ne leur retire pas ce pouvoir au nom du droit.
D'accord. Alors, il est vrai que aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une peau de chagrin, la possibilité d'intervenir d'un enseignant sur un enfant, même quand il transgresse, même quand il déroge, même quand il fait n'importe quoi.
Ah oui, on a invité au silence.
Et l'enseignant, et avec ce côté, et chers amis auditeurs, rappelez-vous quand même qu'on est dans une époque où il y a à peine 3 ans, un enseignant de la France, de la République française, et j'habite juste à côté de son lycée et collège, Monsieur Samuel Paty a été assassiné tout de même. On en est là. On en est là.
Oui, puis il y a une collègue qui s'est fait poignarder il y a quelques semaines.
Hein. Ah oui ?
Eh oui.
En Île-de-France ?
Alors attendez que je me rappelle.
Une collègue a été poignardée. Ouais, ah non, ouais. Vous parliez de la collègue qui a été assassinée dans le sud-ouest.
Dans un collège.
Dans le sud-ouest à Saint-Jean-de-Luz, et qui en est morte.
Oui.
Oui, c'était l'été dernier, juste à la fin de la scolarité.
Non, mais je crois qu'il y en a eu une en mars.
Ah, il y en a eu une là, mais en tout cas, évidemment, on se rappelle de cette enseignante aussi qui a été assassinée dans sa classe. Mais quand même, il y a une nuance. Là, elle a été assassinée dans sa classe par un élève, donc on peut imaginer que c'était un malade mental, un psychopathe profond.
Oui,
tandis que Samuel Paty, c'est à cause d'une sorte de fatwa non dite par rapport à des mômes qui ont été complètement, dont on a lavé le cerveau sur les réseaux sociaux. Et,
oui.
Qui au nom de Daesh sont allés alors qu'ils n'étaient même pas dans sa classe dire qu'il attaquait. Non mais franchement, Emmanuel Jafflin, je voudrais qu'on parle d'une actualité.
Oui, mais je ramènerai pas le problème à un acte de terrorisme parce
Allez-y.
Que je pense que le système se dégrade à tous les endroits sans terroristes.
Oui, bien sûr.
Et que le problème, c'est le respect du prof, c'est le respect du savoir. Hein, quand je prends l'exemple de cette faute d'orthographe, c'est bien pour montrer que on n'est pas en diminution de l'intelligence, mais on est en diminution de l'idée que l'intelligence peut et doit apprendre.
Mais comment voulez-vous, Emmanuel Jafflin, que ce soit autrement? À partir du moment où, si on élargit le focus, on est dans une époque où on donne 3 francs 6 sous à des gens qui enseignent, d'accord? Et des millions à une petite abrutie qui se tord les fesses, et là je mets les pieds dans le plat exprès, hein, à Dubaï, et parce qu'elle a des millions et des millions et des millions de followers, on se fait des millions en postant des choses sur Instagram et TikTok. Voilà l'époque. Et là, ma révolte, elle est saine. J'ai quand au moment donné, et c'est l'humanité. Vous qui êtes philosophe, vous connaissez Protagoras. L'homme est la mesure de toutes choses, celles qui sont et celles qui ne sont pas. C'est quand même l'échelle de valeurs, mince. Et chers amis auditeurs, je pense que vous êtes d'accord avec notre véhémence. Elle est quand même que quand à un moment donné, tu démonétises complètement des métiers aussi essentiels que l'enseignant ou le soignant, parce que pour les soignants c'est pareil, et que des abrutis, excusez-moi, parce qu'ils vendent des merdes à nos mômes, qui vendent des merdes de produits placés à nos mômes, et qui sont vraiment rien, mais simplement elles ont des millions de followers, et mesdames et messieurs, le problème, c'est que c'est eux qui sont devenus les héros de nos enseignants. Emmanuel, votre métier, jusque dans les années 80, l'influenceur, c'était Sartre, l'influenceur, c'était Aron dans les années 70, l'influenceur, c'était le philosophe, l'influenceur, c'était l'enseignant.
Aujourd'hui,
c'était...
c'est des youtubeurs.
Et aujourd'hui, c'est Kenza. Aujourd'hui, c'est Kardashian. Eh ben, mais si c'est pas un des stigmates de la décadence d'une civilisation, ça. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ma véhémence, ma révolte est normale ou pas? Elle est saine ou pas? Qu'en pensez-vous, Emmanuel Jafflin?
Oui, je vous aime révolter.
C'est mon côté Camus.
Ça anime la radio, oui.
C'est mon côté Camus.
Mais plus sobrement, je dirais que la question qui se pose au niveau de l'orthographe, c'est la question de la langue, c'est la question de notre culture. Et le fait qu'au nom de l'élève devenu un roi, et là je développe un paradoxe, c'est que paradoxalement en France et en Europe, on glorifie les enfants alors qu'on n'en fait pas. C'est-à-dire que notre démographie s'est effondrée, et vous le savez, ce qui est rare et cher, c'est comme l'or, donc c'est parce qu'ils sont rares que les enfants sont chéris. Moi j'ai eu la chance de vivre comme diplomate dans des pays où il y avait une forte démographie, que ce soit en Afrique ou au Brésil, et je voyais bien que les enfants étaient aussi adorés qu'ici. Mais ici, on en fait des êtres exceptionnels devant lesquels tout le monde doit se coucher, devant lesquels toute autorité doit s'incliner.
Et en même temps, comme tout est lié à tout, je pense qu'aujourd'hui, l'époque est tellement déceptive et les gens ont tellement peur de l'avenir, on a l'impression d'un déclassement, et même de notre pays, hein, c'est la vérité, de notre pays, que les gens maintenant, ils réfléchissent à deux fois avant de faire un enfant, en disant, est-ce que je veux mettre au monde un enfant dans une humanité qui peut-être même va mourir. Je dis, on est au bord de l'été là. Ça va être quoi? L'été dernier, c'était déjà là. Il y a déjà des feux de fous. Donc en fait, le problème central, il est là, c'est que cette dimension anxiogène partout, Emmanuel, fait que les gens. Vous avez raison. J'ai vu les dernières études. La démographie, c'est incroyable. On baisse. Et est-ce que c'est aussi des gens qui à 20 ans, 30 ans, 35 ans se posent plus la question de est-ce que je veux mettre au monde un enfant dans une époque pareille? Vous en pensez quoi?
Ben, je pense qu'au 19e, on se posait pas cette question. C'était un acte naturel et qu'aujourd'hui, on se pose des questions qui ne sont pas philosophiques, qui sont le fruit d'une idéologie.
Vous pensez ça?
Ah, ben oui.
Mais est-ce que c'est aussi peut-être que vous connaissez la phrase qu'adorait Mitterrand, hein, de René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Est-ce que les gens ne deviennent pas un peu plus lucides?
Je sais pas. Si être lucide, c'est se considérer comme une victime, je trouve que c'est une perte de son autonomie, de sa responsabilité.
Ils se considèrent pas comme une victime, mais ils se considèrent comme des gens qui sont souvent leurrés par les dirigeants du monde.
Ou qui ne veulent pas être des victimes, justement, en ayant des enfants, avoir une charge, etc.
C'est ça. Mais en même temps, si on voit la problématique qu'il y a ces derniers temps, parce que, mais soyons très clairs aussi. Qui dirige tous ces systèmes éducatifs? C'est quand même les politiciens, c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même eux qui devraient essayer de faire quelque chose quand vous envoyez ça sur les réseaux sociaux, quand le monsieur brûle. Alors évidemment, c'est facile de le punir. Lui, il est puni, par exemple. Et vous, vous êtes puni par des gens qui vous ont détruit, sur les réseaux sociaux, quand vous avez mis ça. C'est une forme de punition, ça, Emmanuel Jafflin.
Alors, au sens négatif du terme, parce que la punition, elle est positive. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi je suis parlé de la gentillesse à la punition, et j'avais pas fini. Allez. C'est qu'en fait, je redéfinis les deux de manière symétrique. Être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Par exemple, si vous avez une dame qui a deux grosses valises en bas d'un escalier à d'enfer et qui veut aller prendre le train dans une autre gare, vous l'aidez à monter les valises. Donc, vous êtes gentil. Et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de la gentillesse ou de la punition, l'intention est positive. Vous punissez quelqu'un pour le corriger, pour qu'il aille droit, non pas pour qu'il aille de travers en zigzag. Et je prends l'exemple d'un jeune Norvégien qui a sévi en Norvège il y a quelques années. Alors, j'oublie toujours son nom, mais c'est Breivik. Breivik en 2011, il est allé sur l'île Utøya et il a tué...
Celui qui est allé tuer tous les jeunes, là,
73
sur une
jeunes.
En plein été,
En plein été.
Ça avait été un...
Et
terrible,
alors,
ça.
Breivik, pour en parler, n'avait pas de père. Sa mère l'élevait tout seul. Et il faut savoir que la Norvège a aboli la peine de mort en 1905 et elle avait interdit dès les années 70, je crois que c'est depuis 79, la gifle et la fessée. Donc Breivik n'avait jamais reçu une gifle, une fessée. Il avait jamais été corrigé et il a tué 77 personnes. Donc certains disent que j'exagère quand je prends cet exemple, mais je veux montrer qu'il y a des effets très négatifs de l'absence de punition.
Alors après, on est d'accord, on en était là juste avant d'écouter la chanson, il y a des punitions justes et d'autres qui sont injustes.
Alors je dis, punitions injustes, c'est la maltraitance.
Oui, la maltraitance, mais juste qui va l'évaluer, la maltraitance? Le problème, c'est que quand t'es un enfant, que t'as 2 ans, 3 ans ou 1 an, et que en face de toi, t'as des gens, ou 5 ans, hein, qui en ont 30, 40, 50, je veux dire, ton niveau de dépendance, il est quasiment de 100%, Emmanuel Jafflin. Donc si tu tombes sur un malade, qui est un éducateur, mais qui est un malade, et un malade mental, sa punition, c'est de la maltraitance.
Alors, il y a un journaliste que j'aime bien qui s'appelle Thierry Beccaro qui m'a offert un
livre. Qui lui a écrit son autobiographie où il a dit qu'il a pris cher.
Il écrit « Je suis né à 17 ans parce que son père le battait ». Ça, c'était de la maltraitance.
Et il est très beau, le livre de Beccaro, l'autobiographie de Beccaro. Et elle me fait écho parce que j'étais un enfant.
Il est très bon, mais ce que je veux montrer, c'est qu'il confirme, comme pour plein d'autres auteurs, qu'avoir été battu dans leur enfance, mal battu, ça les a pas empêchés de réussir dans la vie.
Alors, oui, mais tout est relatif, Emmanuel.
Alors qu'il y en a qui sont pas battus comme Breivik et ça va être de la prison jusqu'au bout.
Mais c'est pour ça que tout est relatif. Je peux comprendre Beccaro, ça fait écho à moi parce que j'ai été un enfant battu aussi et battu toute mon enfance, donc j'ai pris cher aussi. Et vous le savez comme moi, la phrase qu'on aime tous, c'est pas ce qu'on a voulu faire de nous, comme disait Sartre, qui est important, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a voulu faire de nous. Vous avez des enfants qui ont été battus et qui le transforment comme Beccaro en de la lumière et de l'amour, et moi aussi je tends à le faire, et vous aussi et d'autres aussi. Et puis t'en as d'autres.
Avec votre livre, voilà. Merci mon amour.
Merci Emmanuel, sur la gratitude. Voilà. Merci, c'est touchant de citer mon livre. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui vont finir ou drogués, ou se suicider, ou tout ça. Donc, alors qu'eux aussi ont été battus. Et ça va donner des gens dont la vie va être détruite. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais je ne veux pas réduire le sujet à la psychologie. Je voulais juste montrer que dans un monde où on ne punit pas, on fait croire aux enfants qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent satisfaire toutes leurs pulsions. Donc le cas de Breivik, c'est ça. Il n'a pas de limite, il s'arme, il va avec une arme à feu, une carabine, pour tuer 77 personnes. C'est quand même quelque chose au quoi il faudrait qu'on réfléchisse.
On se rappelle très bien de cette histoire. En tout cas, on va passer une page musicale et on va continuer à égrener ce magnifique livre d'Emmanuel Jafflin chez Plon, Apologie de la punition. Restez avec nous, c'est passionnant.
Et sourd, la nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, envole-moi, envole-moi.
yeux fixés, mêlés des soupirs. Hiver et glace, été et feu. Ici à jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te jure, à coups de livre je franchirai tous ces murs.
Magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman qui nous dit effectivement qu'on n'est pas victime et pas une fatalité de là où on est né. Vous avez des gens qui naissent dans des cités et qui font de belles carrières. Arrêtons ces clichés que quand tu nais dans une cité, tu deviendras forcément dealer de shit. C'est faux. Voilà, nous sommes toujours sur l'attitude positive avec Christophe Médici sur IDFM, la radio du bien-être. Et justement, on parle bien-être et ou mal-être.
Et l'auteur de Merci mon amour.
Merci aux éditions La Musardine sur la gratitude, Dieu sait si on en a besoin. Et là, justement, on va plutôt parler d'ingratitude ou de gratitude, je ne sais pas, avec Emmanuel Jafflin. Parlons maintenant de l'autorité dans la famille, Emmanuel. Comment ça joue aussi l'histoire de la sanction et de la punition dans la famille, dans la relation parent-enfant?
Oui, on en a parlé au début. Je voulais reprendre un exemple que je prends souvent quand je fais une conférence sur ce sujet. Ça m'est arrivé, c'est du vécu, comme la dame qui me demandait de lui monter des valises dans un escalier d'enfer. C'est une femme qui promène ses deux enfants, un bébé dans une poussette qu'elle pousse, et puis sa petite fille qui marchait à côté, 3 ans, en tenant la poussette de la main. Et arrivée à un passage clouté, la petite fille part, elle traverse une 4 voies, toute seule, sans rien demander à sa mère. Et sa mère panique, elle me voit arriver en face, elle me demande de garder le landau, et elle part en courant à la récupération de sa fille. Et quand elle arrive de l'autre côté de la 4e voie, c'est à Bourg-la-Reine, elle a une nationale, l'ancienne nationale 20, elle récupère sa fille et elle lui met une paire de claques. Et la petite fille sourit. Et ça voulait tout dire, la paire de claques. C'est-à-dire, t'es en vie, je suis contente, mais il ne faut pas que tu traverses comme ça, sans me le demander, sans que je t'accompagne, alors que les feux étaient verts.
Moralité?
Eh ben, moralité, la petite fille, elle a compris que sa mère l'aimait à travers la gifle. Elle a pas du tout pleuré, la petite
Donc,
fille.
Donc, à vos yeux là, c'est une punition un peu comme, alors, où elle est la différence entre dresser un animal et faire ça?
C'est une punition instinctive, ouais. Mais affectueuse, il y a de l'amour dans la punition familiale.
Mais c'est sûr que là derrière, ça part d'une peur d'une mère que la fille se soit fait tuer.
Et
lui, entre guillemets, faire marquer, qu'il faut pas faire ça parce qu'elle risque sa vie. C'est vrai, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la marquée. Sauf que combien de parents tabassent un enfant, Beccaro le dit certainement. Alors que
non, mais
là,
la question c'est combien de parents après un événement pareil auraient traversé la rue et brillant de leur joie auraient pris leur enfant dans leurs bras et l'auraient fait lancer en l'air pour montrer leur triomphe devant le hasard. Je pense que la claque et la punition là, c'était vraiment un signe d'amour et d'intelligence.
Peut-être qu'on pourrait faire une nuance entre. Enfin, moi, c'est ma façon de faire en tant que père, parce que on a ici dans ce studio tous été parents, donc de parents de bas âge, vous, moi, les techniciens. Moi, j'ai jamais tapé mon enfant sur le visage. Le visage, c'est pas les fesses. Je pense que moi, à la limite, si on doit sanctionner par du coup, pas le visage, Emmanuel.
Non, mais il s'agit pas de défigurer. Hein.
Mais quand même, moi, sincèrement, mettre une fessée, ça se mérite. Quand elle est méritée, je pense que c'est une punition juste, vous voyez. Mais une fessée, c'est pas le visage.
Oui, mais à l'époque de la pédophilie, c'est aussi interdit et mal vu, hein.
Ah oui. Alors ça, c'est encore un autre souci.
Ah bah oui.
Vous savez,
oui.
J'avais fait pas mal d'émissions sur l'affaire Vanessa Springora avec oui. Matt Sneff. Il faut voir aussi qu'on a complètement changé d'époque. Il faut voir aussi que là, on fait une émission comme ça. Dieu bénisse, on a cette chance parce
mais
que
donc
nous,
la fessée décline aussi.
Mais vous imaginez l'époque Matt Sneff, Solers, tiens, Solers qui vient de mourir. Mais tous ces mecs-là s'en donnaient à cœur joie avec les petits garçons et personne n'osait le dire. Personne n'osait le dire. Parce que là, il y avait plus que nos Bertha. C'était presque rigolo. Rappelez-vous, c'était cette émission de Pivot. Ouais. Nous sommes en train de rigoler tous ensemble
oui,
avec Matt Sneff, Solers. C'est, je lui dis, alors, vous aimez bien les petites filles, hein, Gabriel Matnev. Au-dessus de 17 ans, c'est trop, c'est quand même dingue, l'époque a changé. Et on était à France Télévisions. C'est fou.
Oui, mais là, on est à IDFM.
Oui, mais à France Télévisions en 79.
Donc, on la ferme et on met pas de fessée. Mais je vous dis, sur le visage, c'est pas un acte de violence, hein. Vous pouvez mettre une petite gifle sur les joues. Et les joues, c'est comme les fesses, c'est rebondi et vous défigurez pas l'enfant.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Alors. Vous dénoncez effectivement, je pense, à ce qu'on a appelé, il y a un courant qui est comme ça, l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant qui est la star partout, dans sa famille partout, et on peut plus rien faire à l'enfant,
oui,
c'est ça.
C'est le
vous dénoncez
roi.
L'enfant roi, on est d'accord. Hein.
L'enfant... Je dénonce pas l'enfant roi, je dénonce la pratique qui fait qu'on le glorifie sans lui apprendre la vie.
Alors, ce qui est, chers amis auditeurs, intéressant dans ce que nous dit Emmanuel Jafflin, notamment, il est vraiment passionnant votre livre Apologie de la punition. Hein. C'est vrai que le problème de l'enfant roi, c'est que l'enfant roi peut aussi déborder vers des pathologies du style, une pathologie de toute puissance, n'est-ce pas ? Et donc, il fait la pluie et le beau temps dans la famille, il fait la pluie et le beau temps partout, et il a beau du haut de ses 5 ans, du haut de ses 4 ans, ça devient un petit dictateur.
C'est ça.
Ça devient un petit dictateur, Emmanuel Jafflin.
Oui, oui, on valorise cette toute puissance de l'enfant qui est fictive. Mais qui est culturel et sur laquelle on peut pas discuter. Je viens ici pour en discuter, mais c'est indiscutable et c'est mal reçu dans notre société.
Vous pensez qu'on peut même plus faire un débat, un symposium là-dessus?
Non, l'enfant est roi, il est rare et donc pour ces deux raisons, enfin c'est la seconde qui nourrit la première, il faut le survaloriser. On le survalorise à l'école, on le survalorise dans la famille et du coup il y a plus de famille et il y aura bientôt plus d'école au rythme où c'est parti. Hein.
Oui, alors je sais qu'on est très inquiet vis-à-vis d'institutions scolaires. Je le suis autant que vous par les retours d'amis comme vous et tant d'autres qui sont dans cette institution. Allez, essayons maintenant de voir si vous lanciez, je sais que vous vouliez monter une école, enfin où elle en est cette idée de monter une autre structure.
Elle est encore une idée et elle va se développer de manière virtuelle.
C'est-à-dire vous allez faire ça sur le numérique ?
Elle sur Internet. Le portail par allusion au portique antique, ouais. Mais je reviendrai pour en parler.
Ah oui, ça nous intéressera beaucoup. Mais vous êtes en phase de construction de la chose.
Oui, mais l'idée, c'est de faire une école de sagesse. Ce que j'explique, c'est que dans un article, c'est que la philosophie a oublié sa Sophie. D'ailleurs, les profs, mes collègues ont l'habitude de dire qu'ils enseignent la philo. Et je lui dis, écoute, moi, j'essaye d'enseigner la Sophie. Mais c'est interdit d'enseigner la Sophie, à cause de la laïcité, puisque la Sophia, c'est la sagesse, c'est une certaine manière de vivre. Mmh. Et ce à quoi notre école prépare nos élèves, c'est être des cons sumériste, sommateur, mais des cons. Donc, l'enseigner pour être des sages, c'est quelque chose qui est mal vu par les parents, par les collègues, par l'autorité. Donc, il faudra que je crée une école pour arriver à la relancer.
Bah, c'est une très bonne idée, d'autant plus que je pense qu'on en a besoin. Moi, de mon côté, j'essaie de transmettre autre chose.
Et vous êtes un sage, vous.
Oui, et puis j'essaie de transmettre aussi, on est complémentaires. Ça, par la communication inter- et intrapersonnelle. Donc, je pense aussi, les gens sont inconsciemment incompétents. On leur apprend rien. Or, c'est pour ça que d'ailleurs, vous le savez, avec Brigitte, le 1er juillet, on va faire un sommet de l'écologie relationnelle. Si tous ceux qui veulent venir le veulent, ce sera dans Paris. Ils peuvent aller voir sur les réseaux sociaux et partout.
Oui, j'ai vu la pub.
Vous avez vu, hein. Et je pense que l'époque va très mal aussi parce que les gens ne sont pas formés à l'essentiel, autant à la Sophia qu'à qu'est-ce que relationner avec l'autre. Ça prend. David Servan-Schreiber, qui est parti trop tôt et à son âme, le disait aussi. L'erreur que l'on fait en France, c'est qu'on pense que communiquer et relationner, ça ne s'enseigne pas. Bien sûr que ça s'enseigne. Les gens, c'est comme s'ils partaient dans la vie sans... C'est comme si on faisait conduire une voiture à un enfant de 6 ans qui peut même pas... Les pieds touchent à peine les pédales et il connaît pas le code de la route.
Oui, je veux revenir sur l'écologie. L'écologie, c'est une forme de sagesse plus que politique si on arrive à vivre conformément à la nature. Je rappelle que c'est quand même, non pas le diktat, mais la formule des stoïciens. Il s'agit homologoumenos non tefusai en grec, c'est-à-dire de vivre conformément à la nature. Il ne s'agit pas de la nature au sens écologique, mais on pourrait la tirer vers ce sens-là. C'est la nature au sens de la réalité, vivre conformément à la réalité.
C'est tout à fait ça.
Anticiper tout ce qui peut arriver, le prévenir et puis l'accepter si ça arrive.
Mais ça nécessite un travail sur soi et travail avec l'autre. Ça nécessite forcément un effort, mais un effort joyeux. Faut pas penser que ça fait mal à la tête, que c'est chiant. On est quand même dans une époque aussi où tout le monde bovine sur Netflix et tout ça, regarde ses réseaux sociaux et swap pendant... Vous savez, chers amis auditeurs, une étude de l'Institut de veille sanitaire de la semaine dernière, Emmanuel, je vous l'a dit, vous savez maintenant combien un Français passe devant son écran de smartphone par jour, et je pense que ça va être 5h58 par jour, Emmanuel. Sur une vie de 80 ans, ça fait 11 ans, et je suis moi-même, je m'en rends compte, drogué à mon smartphone. 5h58.
Alors moi je dirais, moins qu'il faut être joyeux que heureux, j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus.
Ah, célébration du bonheur, chez Michel Lafon.
La joie, c'est très négatif, au fond, si on y réfléchit, puisque c'est la négation d'un désir. Je suis joyeux quand j'ai réussi à réaliser un manque. Alors que le bonheur, c'est plutôt la capacité à se préparer, à accompagner la réalité. Et ça, c'est une attitude très différente du plaisir et de la joie.
Donc c'est vraiment la distinction que vous faites. Vous faites l'apologie du bonheur, n'est-ce pas ?
Oui, de manière stoïcienne. Je vulgarise le stoïcisme. C'est aussi le sens de mon école, le Portail, par allusion au portique, qui était le nom de l'ancienne école fondée par les stoïciens.
Ah oui, c'est intéressant. Alors, écoutez, on va continuer un petit peu. On passe une page musicale et on va voir d'autres parties de votre livre Apologie de la punition chez Plon.
Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs, et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie. Et des ghettos, des bidonvilles, du cœur, du siècle, de l'exil, des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier.
Pour les enfants du monde entier, et oui, Yves Duteil, magnifique chanson. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Nous sommes toujours sur IDFM, la radio du bien-être 98.0. Sommes heureux d'avoir comme invité aujourd'hui Emmanuel Jafflin, qui est philosophe,
il
professeur.
Il est heureux aussi d'être
Il est
là.
Heureux, et c'est un bonheur de vous recevoir, monsieur Jafflin.
Merci,
c'est
Christophe.
Que, voilà, un bonheur. Apologie de la punition chez Plon.
Qui paraît étranger au au bonheur, alors qu'en réalité, une société où on rétablit un équilibre, où on corrige, est un pays où on est peut-être plus heureux que dans les pays qui sont chaotiques.
C'est possible.
Il n'y a plus d'ordre et de respect d'autrui.
Un des axes que vous prenez. Alors parlons-en maintenant de la punition, de la sanction, de ce que vous voulez dans le milieu, une activité qui aujourd'hui est essentielle puisque c'est devenu l'opium du peuple, c'est le sport et notamment le sport professionnel. Hein, voilà. Alors où ça en est maintenant la punition dans le sport, Emmanuel Jafflin?
Ah ben ça reste une. Je divise le livre en 4 chapitres, un sur la famille, un sur l'école, un sur le sport et un sur la diplomatie. 4 domaines dans lesquels j'examine l'application et le rôle de la punition. Et en fait, dans le sport, ce qui est très étrange, en tout cas pour les sports très médiatiques, c'est qu'on pratique la punition à travers non pas le droit, mais à travers les règles du jeu. Il y a ce qu'on appelle un arbitre, donc c'est un pouvoir arbitral qui consiste à corriger les fautes des joueurs, par exemple en football dans un match, en signant le coup franc, le pénalty par exemple. Et ça, tous les joueurs sont d'accord pour ça. Par contre, en revanche, ce que je trouve de plus obscur, de masqué notamment par les médias, c'est que derrière ces activités sportives, où il faut un haut niveau, et je dirais que c'est pas forcément en foot que ça arrive le plus, mais en vélo c'est pas tant, avec des exemples comme Lance Armstrong, de gens qui sont obligés de se doper pour pouvoir faire le spectacle. Et donc, arriver sur un
business,
podium.
C'est-à-dire le but de
C'est ça.
Alors, par rapport à votre première assertion, qui est très importante, là, on est complètement dans l'actualité, parce que depuis quelques semaines, les arbitres, et là, à tous les niveaux, chers amis auditeurs, se plaignent d'être tabassés, d'être plus qu'incendiés. Avant, ils pouvaient être vilipendés, ça a toujours été le cas. Mais maintenant, les arbitres sont tabassés soit par des sportifs des deux, prenons le football que je connais bien, des deux équipes, soit par des supporters. Et maintenant, il y a une crise des vocations, parce qu'un arbitre, surtout un arbitre dans les petits districts, il gagne quasiment rien. On est d'accord. Et beaucoup sont des bénévoles. Donc on voit bien que celui qui est là pour donner la sanction se fait, se fait lapider. Et ça, c'est grave quand même. C'est très grave.
Eh ben oui, parce que son statut n'est pas vraiment celui d'un juge et il ne punit pas au nom du droit, mais simplement au niveau et au nom d'un système où il y a des règles du jeu. Donc faire respecter les règles du jeu dans notre société qui joue surtout, mais qui méprise les fautes, explique que l'arbitre soit malmené.
Alors la vraie question aussi.
Et je dirais que le pouvoir de l'arbitre, c'est pas un pouvoir arbitraire, c'est un pouvoir arbitral.
Arbitral.
C'est-à-dire qu'il a pour but ce respect des règles.
Et sans arbitre, il pourrait pas y avoir de match. C'est ça qu'il faut se dire.
Eh ben oui.
Sans arbitre, mais jamais. Messieurs les auditeurs, il ne pourrait pas y avoir match. À vrai, il y a un vrai souci dans notre époque, peut-être aussi, c'est que ceux qui sont les garants des règles, et quelles qu'elles soient, et notamment au plus loin, les lois, le législateur, sont très souvent ceux qui sont dans une logique, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est quand on voit que les élus, les élites, elles, fixent les règles, le cadre, mais qui après sont les premières à les transgresser allègrement parce qu'elles se le permettent, dans une espèce de toute puissance du style où je suis au-dessus des lois, ben ça pose un problème avec le Pékin moyen, le citoyen, qui lui se dit, mais pourquoi moi je ferais ça, alors qu'eux montrent un mauvais exemple.
Ah oui, l'image du sportif médiatique est une image qui nous éloigne des règles, c'est évident.
Ben, c'est évident. Alors après, on parle évidemment de... c'est intéressant ce que vous avez cité, c'est-à-dire au niveau du sportif de haut niveau qui se dope. Après, est-il possible maintenant au niveau professionnel, étant donné tout ce qu'on leur demande et tout l'argent qui est en jeu, c'est devenu un business, Emmanuel Jafflin, vous êtes d'accord?
Un show.
Il a été très difficile, par exemple, de sanctionner Lance Armstrong. Il a été sanctionné, mais après 12 Tours de France et 12 fois gagné.
Non, 7 fois,
Sept fois, oui.
Il était puni en 2011, c'est-à-dire 6 ans après avoir accumulé sa 7e victoire.
Ouais, mais ils avaient empoché tous les millions et ils avaient fait le show. Et TF1 et France 2 avaient fait le show pendant des années avant de le.
Il y avait un autre cycliste français cette fois qui s'appelle Philippe Gaumont, qui avait publié en 2005 un livre autobiographique qui s'appelait Prisonnier du dopage, où il montrait qu'on pouvait pas faire du vélo si on ne s'en mettait pas du dopage dans les veines.
On se rappelle de ce qu'avait dit Coluche dans sa blague. Aujourd'hui, si les mecs se dopent pas, c'est pas le 14 juillet qu'ils arrivent. Ouais. C'est le 14 novembre. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'on leur demande d'enchaîner à longueur de journée, Emmanuel Jafflin, c'est surhumain. Je veux dire, enchaîner 5 cols, faire 280 kilomètres, t'as beau être même d'immers, je veux dire, ils salaient tous la soupe. Je veux dire, tu ne peux pas faire autrement.
Et Philippe Gaumont, dans ce livre, Prisonnier du dopage, disait, si tu refuses de te doper, tu es viré au bout d'un an.
Mais c'est évident.
Et lui, il meurt d'un arrêt cardiaque à 40 ans.
Mais voilà. Alors, après les dégâts, je pense à un sportif que j'admire plus que tout au monde. Pour moi, c'est peut-être le plus grands sportifs de tous les temps, mais je pense qu'il va le payer cher. C'est évidemment Rafael Nadal, qui a gagné 12 ou 13 fois, je ne sais plus, Roland. Et moi, je suis tennisman amateur, évidemment, de petit niveau. Mais j'admire énormément Rafa. Mais à mon avis, ce qu'il a dû se mettre dans le cornet et comment il a dû détruire son corps, je pense qu'à Rafa, on va voir s'il va faire de vieux os. Parce que, étant donné ce qu'il a dû faire, d'ailleurs, maintenant, il est blessé comme pas possible. Il peut à peine bouger. Et je pense que ces gens-là, pour leur carrière, parce que ce qui est assez...
Oui, mais s'il meurt plus tôt, ça veut bien dire que le sportif, il est peu puni juridiquement, mais il est puni par la vie. Il est puni dans son âme, dans son corps.
Oui, mais la différence, c'est que là, à un moment donné, quand t'es entouré par tes médecins, par ton oncle, par ta famille, tu le fais en ayant l'objectif en ligne de mire, et là, t'as une responsabilité. Vous savez aussi bien que moi que l'étymologie de responsable, c'est je réponds de, c'est moi qui prends la décision, je réponds. Moi, Rafa, je l'admire, mais s'il a pris ces décisions-là, il savait que c'était pour être rentré dans l'histoire. Et rentré, personne n'a gagné 13 fois Roland Garros. Il n'y a pas un Français, Emmanuel Jafflin, un Français qui n'est même pas allé en finale depuis Yannick. Il n'y en a pas un. Le dernier, c'est Yannick Noah, 1983.
J'étais né.
Oui, moi aussi, et j'étais au lycée. Mais depuis rien, plus rien, plus rien, sauf deux filles, Bartoli et...
Et donc, vous voulez dire qu'il n'y a plus rien parce que nos Français se dopent
pas
assez?
Non, je pense que nos Français se dopent autant, mais ils font moins d'efforts. Non, je pense pas qu'ils dopent moins. Hein. Alors ça, je suis persuadé que... Là, moi, ma vision du sport professionnel, c'est que c'est devenu une industrie. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de dollars en jeu ou d'euros, on est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, ces mecs-là, c'est plus uniquement des humains. Prenons Mbappé, c'est des machines, c'est des machines à cash.
Ce que je voulais dire à propos du sport, c'est qu'il y a un arbitre qui donne l'impression de punir, mais que sur le fond, c'est-à-dire ce que vous avez appelé le dopage, la punition existe très peu ou alors elle existe trop tard.
Mais comment pourrait-elle exister, Emmanuel ? Elle tuerait le système.
Elle tuerait le spectacle seulement.
Le spectacle, les annonceurs, la pub.
Mais le sport reviendrait peut-être à sa vraie vocation, qui est de faire du corps l'occasion de développer l'âme. Et là, c'est l'inverse. On pourrit l'âme et on pourrit le corps.
Le problème, c'est que l'humanité, encore une fois, elle a porté au pinacle cette activité humaine, elle donne des millions dans cette activité-là, et 3 euros à un poète, même pas, qui crève la dalle dans 5 mètres carrés, parce qu'un poète, ça vaut rien. Et on aurait pu très bien inverser les valeurs, et dire qu'un poème, ça vaut des millions d'euros, et de taper dans une baballe, c'est un jeu de gamin. Et que ça coûte rien, mais c'est l'humanité qui a créé ça. L'humanité, elle a créé que les sports sont devenus l'opium du peuple dans le monde entier, et que...
Ils donnent de l'opium aux
sportifs.
Excusez-moi,
mais là, on atteint des sommes indécentes. Quand on voit comment on paye Ronaldo, comment on paye Messi, qui touche plus un copec, qui touche plus, il a même plus le niveau d'un joueur de division d'honneur, et que ces mecs-là gagnent des centaines de millions. Alors le système marche parce que le mec est au RSA, il va chercher chaque année son abonnement pour la Tribune Bologne au PSG. Hein. Donc le système marche parce que le mec qui a 200 euros par mois, lui, il y va. Donc c'est son héros. Hein. Le système marche pour ça. Le jour où ils leur couperont la tête, et ça peut-être pour bientôt d'ailleurs, parce qu'il n'aura plus rien à bouffer le mec à 200 euros, là peut-être que le système est fini. Et on n'en est pas loin, parce que l'autre jour, ils sont quand même allés devant chez Neymar. Ils sont allés devant chez Neymar dans le 78. Donc on n'en est plus très loin.
Mais c'était pas pour le punir.
C'est pour lui dire casse-toi quand même. Ça se voyait pas trop quand même encore. C'est un peu nouveau, Emmanuel. Hein. Aller jusque devant chez un joueur pour lui dire maintenant on veut plus de toi. Voilà. Je pense que dans quelques temps, si la décadence continue et s'ils n'ont plus rien à manger, ils leur couperont la tête. Ils leur couperont la tête. Sur les premiers auxquels ils couperont la tête, parce que c'est les nobles d'aujourd'hui. C'est les nobles d'aujourd'hui. Ces sportifs de haut niveau, c'est des nobles. C'est une forme de noblesse. Je veux dire.
Je redéfinis dans mon apologie de la punition la noblesse d'un point de vue moral et pas social.
C'est-à-dire
le nouveau gentilhomme ou la nouvelle gentedame, c'est celle qui est gentille avec autrui.
Oui, ça c'est très beau, je partage.
Mais c'est une gentilhommerie qui n'est pas à la mode et qui n'est pas validée socialement. Mais c'est, je dis ça pour motiver les gens à être en relation avec autrui.
Là, on est dans le même combat tous les deux.
Oui,
on est vraiment mano à mano et c'est pour ça. Ce dont vous parlez, c'est de l'écologie relationnelle. C'est de l'écologie relationnelle. Et c'est pour ça qu'on s'apprécie tellement, Emmanuel. Mais on n'est pas tellement nombreux à ce son de cloche-là et... Volins, ce n'est pas le modèle dominant. On est minoritaire. Regarde, on fait des émissions grâce à IDFM, on fait des émissions grâce à Sud Radio, d'autres radios qui sont concurrentes des nôtres, mais sur lesquelles on est, RMC et autres, où ils nous donnent quand même notre... Il faut même amener ça aux enfants, aux ados, aux lycéens.
Moi,
je serais à l'éducation nationale, je peux vous dire que je transgresserais comme un malade, mais c'est ça que je transmettrais. Je ne transmettrais que ça. Je dis, vous me voulez de moi? Je fais prof de français, mais je peux vous dire que moi, je transmettrais que ça. Il m'est arrivé, chers amis auditeurs.
Vos élèves ne feraient pas ce genre de faute d'orthographe que celle que
non,
je
Non, mais moi, je les formerais à la prise de parole en public. C'est ce que j'ai fait il y a 3 ans pour les cadets de la République, là
Très
où ils devaient, ils devaient préparer quelque chose devant les préfets et défendre leur établissement. Je peux dire que les mômes ont dit, mais moi, je voudrais avoir mes DC tous les jours. Je faisais des ateliers entre 12h et 14h.
J'imagine.
Et ils ils ont adoré parce que je leur apprenais simplement que prendre la parole devant des gens, bah, c'était des gestes, des postures que vous connaissez très bien, vous êtes conférencier professionnel comme moi. Ils savaient rien, les gamins, là-dessus. Mais pendant 2 heures, ils prenaient leurs pieds. Et leurs associations, ils disaient, mais je leur connais plus l'après-midi.
Et aucun ne s'est dopé.
Aucun s'est dopé. Formidable. Aucun ne s'est dopé. Au contraire, ils étaient contents. Ils étaient contents parce qu'on leur disait, tu sais, tu dois regarder les gens comme ça, tu dois leur sourire, tu leur parles en montant la voix. Enfin, un peu comme on fait au théâtre. Mais nos gamins, ils demandent ça, Emmanuel Jafflin. Ils demandent qu'on leur transmette des choses qui s'occupent du relationnel. Et je peux vous dire que là, ils se font pas chier pendant 2 heures.
Je suis d'accord que la théâtralisation est bien mieux que le dopage.
Bah, c'est évident. Alors, l'apologie de la punition, je vous avais eu beaucoup, beaucoup d'articles dessus, hein. Est-ce que vous avez eu des gens qui ont eu des critiques assez, assez humbles par moment, sur le livre ou,
Ah oui, oui, le seul qui m'a invité positivement sur une chaîne de télé, j'oublie son nom, Thierry Ardisson.
Thierry Ardisson, vous avez
invité. Il m'avait consacré une belle émission et où personne m'a critiqué, j'étais étonné parce que j'étais arrivé blindé, hein, prêt à m'en prendre plein la tête.
Et il vous a valorisé.
Et en revanche, j'étais sur une autre chaîne où j'étais interpellé par un élu écologiste qui, dès le début, m'a insulté et a quitté le plateau en disant « Moi, je peux pas parler de la punition avec un philosophe comme lui ».
Oui, oui, il avait vu juste l'axe.
Donc on voit bien que c'est totalement hors mode. Mais c'est peut-être ça la réalité, hein, c'est d'être en dehors de la mode.
Vous avez bien raison, parce que les modes sont tellement parfois pitoyables. Puisque ouais. Ce qui est à la mode se démode, on est d'accord. Donc c'est forcément
donc
le cas.
Donc j'espère que je serai jamais à la mode alors.
Non, le but n'est de pas être à la
c'est
mode.
C'est plutôt
le but
une modalité de la société que j'aimerais transformer,
mais bien
pas
sûr.
Une mode.
Je pense vraiment à la phrase de Gandhi, on doit être le changement qu'on veut voir dans ce monde. Quand on écrit des choses auxquelles on croit, parce que c'est dans nos valeurs et qu'on pense que ça peut aider l'humanité, on est aligné avec sa mission de vie. Mmh. Voilà, on est aligné à ça. Le but n'est
je
pas
valide.
De faire des choses, voilà, de pas faire des choses parce que ça plaît en ce moment, dans l'air du temps. Mais c'était très exactement l'époque, parce que l'époque est instagrammable. L'époque est TikTokable et l'époque elle est si t'as 40 millions de followers tu vaux, si t'en as 40 t'es
une merde. YouTubeable aussi.
Et YouTubeable. Et si t'as 50 millions sur ta chaîne YouTube tu vaux, si t'en as 50 t'es une merde. Et là c'est ce que Cialdini, le grand sociologue américain, appelait la preuve sociale, Emmanuel. C'est-à-dire la preuve sociale c'est le score.
Eh oui.
Et la preuve sociale c'est le score. Or nous on est Einstein, tout ce qui compte ne peut pas être compté et tout ce qui peut être compté ne compte pas toujours et
oui.
C'est un vrai problème ça.
Mais la raison
on n'est plus
même...
dans l'éloge de la qualité, on est dans l'éloge de la quantité.
La raison de ma venue ici c'est parce que j'ai fait 130 000 vues sur cet extrait de copie qui écrit
130 000 personnes ont regardé ça sur LinkedIn,
ouais.
Non c'est ça
juste une photo d'un extrait de copie
sur LinkedIn.
C'est ça.
Écoutez bien chers amis auditeurs de l'attitude positive, Emmanuel Jafflin publie une copie, je vous assure, allez la voir.
Un extrait de copie,
allez la voir. C'est des mots d'ailleurs, la technique, les réalisateurs de l'émission l'ont vu aussi. C'est incroyable de voir qu'un terminal écrit comme ça en 2023. Eh bien, si c'est la vérité. Et enfin, arrêtons de nous voiler la face, mince. À quoi ça sert? Voilà où on en est. C'est quand même incroyable. Bien sûr que brûler peut-être les copies. D'ailleurs, il est passé au tribunal. Hein, il a été jugé et renvoyé puisque c'était un contractuel. Il a été renvoyé. Donc ça, c'est un peu too much. Mais au moins, vous avez, comme disait mon grand-père, des cojones, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Vous avez des cojones. À un moment donné, vous avez 130 000 vues. Vous avez des gens qui vont dire, bah, je suis d'accord avec cet enseignant. Il faut le dire. Et puis d'autres dans les 130 000 qui vont dire, non, mais c'est juste pas possible.
Une minorité était d'accord.
Ah, une minorité est d'accord.
La plupart sont dans l'idéologie de la victimité, m'épingle. C'est-à-dire la cible, c'est le prof, c'est pas le prof qui veut corriger un élève ou qui veut attirer l'attention des gens sur la situation orthographique de notre époque. La cible, c'est le prof.
C'est vous qui devenez la personne à abattre. Vous devenez la personne à abattre.
Ah oui, j'ai eu des propos incroyables.
C'est fou ça. C'est incroyable. Mais on s'étonne que Samuel Paty ait été assassiné.
C'est plus facile de croire en Dieu que de croire que des gens peuvent harponner un prof sur une bonne intention.
Oui, vous, ça partait d'une idée de tiens, bah, on va essayer d'éclairer le jeu. Vous voyez,
oui,
on en est là.
Montrer la réalité,
constate
le réalisme.
La réalité.
Voilà.
Écoutez, Emmanuel, il nous reste que quelques peu de temps. Quel est votre futur combat? Donc, le portail, créer le portail,
et puis inviter les élèves à écrire, pas seulement à m'écouter, mais à écrire. Je les force à prendre des notes, non pas pour boire mes paroles, mais pour sculpter leur écriture.
C'est très important
qu'il
pour le
cerveau. Qu'il y ait un sujet, un verbe, un complément, que ce soit précis, qu'on progresse dans la phrase, qu'on progresse de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe, et qu'on arrive à un devoir qui tienne la route.
Oui. Tout n'est pas perdu, on est d'accord.
Non, bien sûr, on
tout
est
n'est
d'accord.
Pas perdu.
C'est une radio positive.
Voilà, et on est sur la radio du bien-être. Allez, quelques pistes peut-être pour essayer d'avoir une amélioration dans les jours, les mois, les semaines et les années qui viennent.
Ah bah l'écoute, l'altruisme, s'ouvrir à autrui, écouter autrui.
Donc l'empathie.
Eh bah oui, l'empathie.
Et comme disait Claudel, parler est un besoin, écouter un talent, chers amis auditeurs. Merci de nous avoir écoutés.
Ouais.
Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venu, Emmanuel Jaffa.
Merci de m'avoir invité.
Bravo à IDFM. On partage l'idée qu'il faut vraiment dénoncer tout ça. Et chers amis auditeurs, je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Latitude Positive.
Merci Christophe.
Merci à la réalisation.